Bonsoir. Donc, effectivement, je vais vous parler du centre galactique et plus spécifiquement de son trou noir qu'on associe à la source Sagittarius à l'étoile. Et je vais essayer de parler un petit peu de son activité. C'est un exemple typique de trou noir très inactif. On a effectivement des noyaux actifs de galaxies et puis on a des noyaux actifs de galaxies de faible luminosité. Et Sagittarius à étoile est l'exemple du trou noir le moins lumineux qu'on connaît, puisqu'il est proche de nous, donc on peut détecter son émission. On s'aperçoit qu'elle est extrêmement faible. Et je détaillerai un petit peu les différentes manières qu'a cette émission d'apparaître, l'émission qui est centre d'une part, et puis on verra qu'il y a des sursauts, des espèces de petites éruptions qui se produisent régulièrement. Et donc on verra un petit peu ce qu'on peut en dire. Et puis on va essayer de s'intéresser aussi à d'autres aspects qui deviennent un peu plus évidents, c'est depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, que ce trou noir, il a vraisemblablement été plus actif par le passé. Et donc on en voit des traces et on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Première chose, d'abord, c'est effectivement de prendre un peu de recul et puis de rejoindre le trou noir petit à petit, et donc d'aller s'intéresser à son environnement et puis de progressivement. Donc je rappelle brièvement qu'on est dans une galaxie spirale barrée, qu'on se trouve à peu près à 8,5 kiloparsecs, 8,2 kiloparsecs du centre de la galaxie, ici. Donc nous, on est un petit peu plus loin. Et si on s'approche un peu, donc la barre ici, elle va contenir du gaz ici qui est en orbite selon une orbite qu'on appelle les orbites X1 qui sont liées, et dans ce potentiel de la barre, en fait, les orbites les plus internes vont être instables et vont pouvoir tomber et former une deuxième catégorie d'orbites, les orbites de type X2, et qui vont former ici ce qu'on appelle la zone moléculaire centrale. Et donc on peut estimer le taux d'injection de masse, et les gens estiment qu'entre un dixième et une masse solaire par an va être injectée dans les régions internes de la galaxie à travers ces orbites ici. Donc le gaz va être comprimé ici et former la zone moléculaire centrale, qui est donc cet anneau. On voyait de l'anneau en vue de dessus tout à l'heure, on voit ici de face, on voit un anneau qui est déformé. Donc ça, c'est un indicateur de la densité de colonne qui est obtenue par le satellite Herschel. Donc essentiellement, c'est des mesures infrarouges qui permettent de mesurer la quantité de poussière et d'en déduire une estimation de la densité de colonne sur la ligne de visée. Et donc on a ici cette carte avec une très bonne résolution. Donc le centre galactique, il est à peu près par ici. Donc ça couvre presque 200 parsecs en diamètre. On estime la masse totale présente dans la région à entre 20 et 60 millions de masses solaires. Alors le petit volume que représente la zone moléculaire centrale, c'est une très grande densité. Donc on peut s'attendre légitimement à ce que cette très grande densité de matière moléculaire conduise à une forte formation stellaire, par exemple. Et en pratique, on constate que c'est plutôt beaucoup moins efficace que dans d'autres régions, d'autres parties de la galaxie. Et ça, c'est dû au fait que le gaz est probablement très chaud, très turbulent pour du gaz moléculaire, et donc la formation stellaire est probablement moins efficace ici. Donc on a des grands complexes moléculaires ici, comme le complexe de Sagittarius B2, qui représente presque de 5 à 10 millions de masses solaires à lui tout seul. Ici, la région de Sagittarius A. Là, on a deux nuages qui sont de part et d'autre, pense-t-on, du trou noir lui-même, complexe de Sagittarius C, etc. On peut s'intéresser effectivement à la quantité d'étoiles qui sont créées dans la région. On peut le faire de manière un peu indirecte. Là, par exemple, c'est une étude qu'on a faite à partir d'un sondage profond qu'on a fait de la région avec le satellite XMM Newton. Et donc, en se disant que les étoiles massives, celles qui font un peu plus de 8 masses solaires, vont conduire à des supernovas de type gravitationnel. Ces supernovas créent des ondes de choc dans le milieu interstellaire, qui chauffent le milieu interstellaire, et donc on s'attend à une émission thermique intense qui dure quelques dizaines de milliers d'années, le temps que l'onde de choc se propage dans le milieu interstellaire. Et donc en dénombrant, en mesurant l'émission qu'ils induisent, qui est une émission qu'on peut voir en rayon X avec une température typique de l'ordre du kiloélectronvolt, on peut essayer d'estimer la quantité de supernovas qui se sont produites dans les quelques dizaines de milliers d'années passées. Donc là, c'est ce qu'on a fait, par exemple, sur toute la région avec l'ensemble des données prises par le satellite XMM Newton. Donc on voit une image prise dans des raies, l'arrêt du silicium, l'arrêt du soufre et une raie de l'argon. Alors, le centre galactique est par ici. On voit une espèce de structure avec deux lobes de part et d'autre. On voit des grandes bulles ici. Donc là, par exemple, c'est une bulle qui semble très énergétique, plus énergétique qu'une supernova elle-même. Donc on attribue, par exemple, à une étoile qui aurait pu être détruite par effet de marée. On s'attend à ce que ce genre de phénomène arrive tous les 10 000 ou 100 000 ans. Donc c'est tout à fait commensurable avec la durée de vie d'une structure comme ça. On voit ici une région qui est probablement plutôt une superbulle dans laquelle il y a beaucoup d'amas d'étoiles qui vont alimenter l'émission. Et donc, à partir de là, on peut en déduire un taux de formation d'étoiles qui est déjà effectivement qui est important, mais pas si grand par rapport à la quantité de matière disponible, donc qui est de l'ordre de 0,1 masse solaire par an. Au passage, ça induit un taux de supernova qui est de l'ordre de 1 tous les 1000 ans, ce qui veut dire que la quantité d'énergie cinétique injectée par les ondes de choc dans la région est de l'ordre de 10 puissance 40 erg par seconde, ce qui n'est pas du tout négligeable, et qui, on verra plus tard, peut avoir d'autres impacts. On continue à s'approcher du centre. Là, on est dans les 30 parsecs centraux. On voit une image prise par Hubble dans l'arrêt Pachène Alpha, donc en infrarouge proche. Et on voit notamment toutes les régions ionisées par trois amas parmi les plus massifs que compte la galaxie. Donc l'amas du quintuplet ici, qui est dans lequel il y a cette étoile, qui est l'étoile la Pistol Star, qui a une masse estimée à 150 masses solaires à peu près, et qui ionise toute une région autour d'elle. C'est un amas qui a à peu près 4 millions d'années. On a l'amas des Arches ici, dans lequel qui a à peu près 2 millions d'années, là aussi qui ionise le milieu autour de lui. Et là, il est encore très jeune et très dense. On estime la densité en son cœur à 10 puissance 5 masses solaires par parsec cube. Et puis en dernier, donc autour du centre, donc il y a un amas d'étoiles beaucoup plus âgées, beaucoup plus anciens qui va s'assembler autour du centre de la galaxie. Mais on constate aussi une population d'étoiles très jeunes, pareil, avec un âge typique de l'ordre de 5 à 6 millions d'années, donc qui est distribué dans un disque et qui se trouve au centre. Alors c'est un peu surprenant, puisque a priori, des étoiles aussi jeunes n'auraient pas le temps d'arriver ici par une évolution en étant formées ailleurs se retrouvant ensuite autour du trou noir. Donc il faut qu'elles aient été formées sur place. Ça suggère ici qu'il y a probablement eu la formation d'étoiles même autour du trou noir lui-même. Si on continue à s'approcher du centre, donc là on est dans l'arc minute central. Donc on voit une image ici encore en infrarouge proche qui montre ces étoiles très massives de l'amas central ici. Et si on regarde cette fois-ci en ondes radio, donc on est autour de quelques centimètres ici, c'est pris avec le VLA, on voit cette structure ici qu'on appelle la mini-spirale, qui est du gaz ionisé. Autour ici, on ne le voit pas parce que ce n'est pas visible dans cette longueur d'onde, mais il y a aussi un réservoir de matière moléculaire qui s'appelle le disque circumnucléaire, qui fait à peu près 3 parsecs de diamètre ici et qui entoure un petit peu la mini-spirale. Et ce petit point ici, dont la luminosité dans ce domaine-là doit être de l'ordre de 10 puissance 33 erg par seconde, c'est la source radio compatible avec le centre galactique qui a été découverte pour la première fois en 1974, je crois, qui est la contrepartie du centre de notre galaxie. Donc c'est une source très faible qu'on voit ici. Et si on regarde en rayon X, donc c'est la même échelle, cette fois-ci c'est une image produite par le satellite Chandra, donc on parle de rayon X de quelques keV, donc on voit une émission un peu diffuse un petit peu partout, qui semble être un peu présente un peu partout dans l'image, qui est due au vent des étoiles massives qui sont présentes et qui vont créer un plasma chaud dans toute la région, et donc toute cette région de la mini-spirale qu'on appelle la cavité centrale va être remplie de ce gaz chaud produit par les étoiles. Et puis on voit une série de sources plus ou moins ponctuelles. Alors là, on a un exemple d'objet qui est tout près du centre de la galaxie, qui est une nébuleuse de pulsars. Donc ça a toutes les caractéristiques d'un vent de pulsars qui est entraîné par exemple par le mouvement du pulsar ou alors par la pression du milieu ambiant et qui rayonne en synchrotron à l'arrière. Et donc la source au centre, elle est ici. La contrepartie X de Sagittarius à l'étoile, elle est ici. Et donc c'est une source très légèrement étendue. Elle fait une arcseconde. Chandra a une excellente précision angulaire qui lui permet de résoudre la source. Et on voit donc une source qui est légèrement étendue, qui fait donc une arcseconde, qui représente à peu près 100 000 rayons de Schwarzschild pour le trou noir qui est présent. Et donc là aussi, la source a une luminosité très faible, de l'ordre de quelques 10^33 R par seconde. Donc on voit ici la superposition des deux. Maintenant, si on veut aller plus loin, on va devoir changer d'instrumentation. Voilà, on va zoomer un petit peu plus. On va regarder les 0,03 parsecs centraux, c'est-à-dire essentiellement l'arc seconde centrale. Et donc là, on va voir ce qui se fait depuis une bonne vingtaine d'années grâce aux télescopes optiques, avec les grands télescopes avec l'optique adaptative, comme donc le Keck d'une part à Hawaï et puis le VLT au Chili. Donc là c'est donc on voit l'ensemble des étoiles qu'on peut tracer individuellement comme ça en fonction du temps. Donc elles sont toutes localisées, on peut suivre leurs orbites et on voit qu'elles gravitent toutes autour d'un point. Une étoile particulièrement intéressante, c'est celle-ci, qui a une orbite fermée, là, qui s'approche très près du centre, qui est marquée par cette étoile-là, c'est l'étoile S2. Et donc, on peut donc, du coup, estimer la masse qui se trouve au centre grâce à l'ensemble de ces orbites. Donc, c'est ce résultat qui a valu à Andrea Ghez, donc pour le groupe de UCLA qui utilise Keck, et à Reinhard Genzel, le groupe du Max Planck Institute à Garching, qui utilise le VLT, qui leur a valu le prix Nobel l'année dernière, en 2020. C'est la première indication vraiment très claire qu'on a un trou noir supermassif, donc là, cette fois-ci dans notre galaxie. Et donc, on peut estimer sa masse à 4 millions de fois la masse solaire à partir de ces mesures d'orbite. Entre-temps est arrivé un nouvel instrument, Gravity, donc, qui est toujours sur le VLT, mais cette fois-ci qui utilise l'interférométrie vraiment et qui du coup peut avoir une précision sur de beaucoup plus grande. Donc il va pouvoir mesurer avec une résolution en position de l'ordre de quelques milliards de secondes et sa précision astrométrique pourra descendre à quelques dizaines, entre 20 et 70 micro-arcs secondes. Donc là, on a une précision de mesure qui devient redoutable. Et donc là, on voit notamment la mesure qui est sortie. Donc le péricentre de l'étoile S2, c'était en 2018, la passage au péricentre. Et donc on voit les mesures anciennes ici des instruments comme NACO qui était sur le VLT et puis les mesures de Gravity où on voit même plus les bords d'erreur. Et donc on voit la vitesse radiale de l'étoile ici qui atteint jusqu'à 4000 km par seconde quand elle passe à son péricentre à 2800 rayons de gravitation, 2800 rayons gravitationnels. Et ça permet d'en déduire la masse du trou noir et la distance du trou noir avec une précision qui est de l'ordre de 0,3% à peu près. Donc on a une mesure maintenant qui est à 8,27 kg par sec et sa masse est de l'ordre de 4,3 millions de masses solaires. Si on veut aller plus loin et véritablement regarder au plus près du trou noir, alors il faut une résolution angulaire bien meilleure. Et donc pour ça, il faut passer à l'interférométrie radio de grande ligne de base, grande baseline, le VLBI. Si on observe autour du millimètre, si on veut une résolution qui soit aux alentours de la dizaine de micro-arcs secondes, il faut 10 000 km à peu près de baseline. Hein, donc ça veut dire un télescope qui utilise fait de l'interférométrie sur des télescopes qui sont à l'opposé sur Terre quasiment. Et donc c'est ce que les gens font depuis une vingtaine d'années et ça a permis de montrer notamment donc de mesurer pour la première fois la taille intrinsèque de Sagittarius à l'étoile. Le gros de l'émission est dominé en fait par la diffusion sur la ligne de visée. Et donc ça, c'est ce qui tend à étaler le signal de manière très large. Mais si on descend à un domaine autour du millimètre, on commence à pouvoir mesurer la taille intrinsèque. Et donc on voit en rouge la taille mesurée et puis la partie intrinsèque ici, une fois qu'on corrige pour l'estimation de la diffusion. Et donc à 1 mm, par exemple, la taille elle est de l'ordre de 50 microarcs/secondes, ce qui fait 10 puissance 12 cm, donc 60 millions de kilomètres à la distance du centre galactique. Ce qui correspond à peu près 4 à 5 rayons de Schwarzschild pour un objet de la masse du trou noir. Donc bien sûr, entre-temps est arrivée donc l'extension encore de ces mesures via LBI avec l'EHT, l'Event Horizon Telescope, qui nous a produit il y a 2 ans la première image d'un trou noir dans la galaxie M87, donc la CM87 star. Sagittarius Asta a à peu près la même dimension. Cet objet, il est 1000 fois plus massif que Sagittarius Asta, 1 milliard de masses solaires, mais il est 1000 fois plus loin, donc sa dimension angulaire est la même. Donc effectivement, ce sont les deux meilleures cibles pour cet instrument. Mais là, on n'a pas encore le résultat et on espère qu'il arrivera bientôt. Je ne sais pas exactement quand. C'est probablement beaucoup plus difficile parce qu'il y a toute la galaxie à traverser, donc la source est beaucoup plus. Il y a l'effet de la diffusion qui est beaucoup plus difficile à prendre en compte. Et puis un deuxième effet, c'est ce qui est lié à la taille de l'objet. Et donc les mouvements propres ici vont être beaucoup plus lents. Alors que sur l'échelle du trou noir, la dernière orbite stable, c'est de l'ordre de 20 à 30 minutes. Donc ça veut dire que les variations vont être beaucoup plus fréquentes. Alors même qu'il va falloir l'observer avec des télescopes qui sont extrêmement distants. Donc c'est difficile de réussir à observer. Il varie aussi vite qu'on arrive à l'observer. Donc c'est sûrement techniquement beaucoup plus compliqué de produire une image de Sagittarius Asta. Mais très probablement, on nous avait annoncé en 2021, peut-être que encore quelques semaines, mais sinon bientôt ça devrait sortir. Donc ce trou noir, on va voir qu'il est dormant, enfin, en tout cas qu'il fait partie des trous noirs très peu actifs. Donc évidemment, le modèle du noyau actif de galaxie qui est brillant, donc ça représente 10% à peu près de la population des trous noirs. Il a un disque d'accrétion, l'effet de l'accrétion froide dans lequel l'énergie gravitationnelle va être convertie sous forme d'énergie cinétique et va pouvoir être rayonnée très efficacement. Donc essentiellement, c'est à 10% de l'énergie de masse accrétée qui peut être rayonnée si le rayonnement est efficace. Et donc effectivement, on a une luminosité limite une fois que la pression de radiation devient aussi importante que la force gravitationnelle. Et donc pour Sagittarius Asta, on a quand même une capacité d'une luminosité qui peut atteindre 5 10 puissance 44 Hz par seconde. Potentiellement, ça peut être une source extrêmement brillante. Donc maintenant, si on fait le bilan des observations que j'ai essayé de résumer au début, on arrive sur cette distribution d'énergie spectrale. Donc en abscisse, on a la fréquence, le flux, la luminosité en ordonnée. Donc on voit que la luminosité pique dans le domaine millimétrique, hein, submillimétrique même ici. Donc c'est le synchrotron le synchrotron thermique produit par les électrons dans les couches les plus internes du flot d'accrétion, qui représente ici une petite partie du spectre. Et on est obligé de faire appel à une population d'électrons non thermiques pour expliquer à la fois une composante radio ici, donc celle qu'on voyait par exemple dans l'image du VLA tout à l'heure, et pour expliquer l'émission infrarouge, infrarouge proche ici essentiellement, puisqu'en infrarouge moyen on ne détecte pas. Et puis on a aussi une émission de Bremsstrahlung, donc d'électrons dans le flot d'accrétion, qui va expliquer l'émission X-hiéscente dont on a parlé, donc encore une fois avec une luminosité autour de 10 puissance 33 Hz par seconde. Donc là, on a un objet qui est 9 ordres de grandeur en dessous de sa luminosité limite, donc il est très clairement sous-lumineux. Alors, C'est l'exemple type d'objet qui a stimulé beaucoup de travaux sur les modes d'accrétion inefficaces. Donc là, ce qu'on appelle aujourd'hui les flots d'accrétion chauds, par exemple, où on parle aussi de modèle RIAF pour Radiatively Inefficient Accretion Flow, donc les flots d'accrétion inefficaces radiativement. Donc là, l'idée, c'est que donc Sagittarius A star ici, et c'est cette source ici, donc elle baigne dans le gaz chaud qui est produit par le vent des étoiles massives qui l'entoure. Une partie de ce gaz va être capturée dans le puits de potentiel de Sagittarius A star, et donc ça se fait au niveau du rayon de Bondi, dans lequel le rayon où la force gravitationnelle va dominer sur la pression du gaz ambiant. Et donc ça correspond à une dimension pour un trou noir de 4 millions de masses solaires dans un gaz chaud comme ça, à peu près à 100 000 rayons de Schwarzschild. Et donc on estime le taux à 10-5, 10-6 masses solaires par an qui vont être accrétées à partir de ce rayon de Bondi. Et donc une caractéristique de ces flots d'accrétion chaud, c'est qu'en fait, comme la chaleur ne va pas être rayonnée de manière efficace, il va y avoir au contraire des grosses éjections, des outflows importants. Donc c'est une prédiction de ces modèles qu'il doit y avoir des outflows très marqués. De fait, quand on mesure, donc on peut mesurer le taux d'accrétion au voisinage du trou noir lui-même. Ça, on peut le faire par différents processus, notamment là avec la rotation de Faraday. On regarde le changement de polarisation du signal et on peut en déduire un taux d'accrétion ici, donc cette fois-ci dans les dizaines de rayons de Schwarzschild centraux, qui est de l'ordre de 10-7 à 10-9 masses solaires par an. Donc ça veut dire qu'une grosse partie de la masse qui est accrétée en fait va être évacuée dans le flot d'accrétion. Donc ces modèles d'accrétion inefficace, en général, ils s'accompagnent d'outflow. Et donc le taux d'accrétion devient en gros une loi de puissance qui dépend du rayon. Et là, dans le cas de Sagittarius A star, on estime que c'est à peu près proportionnel au rayon. Et donc plus on s'approche, si là on est 3 à 4 ordres de grandeur en dessous en rayon, on est effectivement à 3 ou 4 ordres de grandeur en dessous en taux de masse accrétée. Et donc on peut en déduire du coup qu'il doit y avoir une éjection très importante, des outflows très marqués. Donc la puissance qu'on peut estimer, donc ça c'est Wang et al. Qui l'ont estimé à partir d'observations X très, très pointues, ont estimé à 10^39 N par seconde. Donc au contraire, l'essentiel de la puissance en fait passe sur des outflows et l'éjection de matière. Donc c'est outre l'émission quiescente qu'on voit ici, due au flot d'accrétion, il y a une émission supplémentaire. Alors on devine ici qu'il y a une partie de l'émission qui est due à des particules non thermiques. Donc là on peut avoir potentiellement une variabilité plus marquée. Et donc effectivement, on va observer un niveau de variabilité qui dépend de la fréquence à laquelle on l'observe. Autour du centimètre ou du millimétrique, ça varie peu. Essentiellement, ça varie de au plus un facteur 2 à 3, le flux au cours du temps. Alors qu'en infrarouge proche, on peut constater des variations jusqu'à 10, 20 fois. Et récemment, en 2019, on a observé presque jusqu'à 50 fois, je crois, au-dessus du niveau moyen. Et en rayon X, par contre, la variabilité est beaucoup plus marquée. Essentiellement, c'est jusqu'à des facteurs presque 200 qu'on observe. Et encore, c'est par rapport à un niveau quiescent qui est beaucoup plus stable. Hein, puisque, en infrarouge, en fait, la source est continuellement variable. Comme elle est due à ces électrons qui sont non thermiques, qui sont dans les régions internes du flot d'accrétion, en tout cas, pense-t-on, elle varie énormément. Elle présente. Alors, il y a eu longtemps un débat pour savoir si cette variation, c'était juste une variation aléatoire attendue dans le flot à cause des processus turbulents, ou de savoir si certains événements étaient vraiment à part. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'une partie des éruptions ou des variations violentes qu'on peut observer en infrarouge s'accompagne aussi d'une éruption X. Le contraire n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éruptions. Il y a beaucoup d'éruptions infrarouges ou de variations fortes du flux qui n'ont pas d'émission X associée. Alors qu'en général, quand on observe une émission X et qu'on avait un télescope infrarouge qui observait au même moment, on voit toujours une augmentation du flux infrarouge. Donc en général, on observe ce genre de phénomène entre une et deux fois par jour. En rayon X, c'est ce qu'on mesure. Hein, c'est à peu près stable. La durée typique, c'est autour de la demi-heure de l'heure. D'accord. Et donc, effectivement, la luminosité varie d'un facteur 10 à 100 par rapport à l'état quiescent, ce qui veut dire que les sursauts les plus intenses qui ont été détectés jusqu'ici ont une luminosité typique qui est comparable à la luminosité bolométrique à 5, 10, 35 par seconde. Alors, pour autant, ce n'est pas des phénomènes extrêmement brillants. Là, on voit donc encore l'image Chandra et on voit à droite l'image d'un, enfin, le film qui a été fait avec un sursaut Chandra. Donc on voit ici, en fait, c'était un moment où il y avait une source très proche du trou noir, ça devait être un magnétar qui était allumé, et on voit effectivement le sursaut du trou noir ici, juste à côté. Donc la question de la variabilité infrarouge ou de l'existence réelle d'éruption à proprement parler, elle a longtemps fait débat. Je pense que le débat il est maintenant tranché. Donc on voit par exemple une des courbes de lumière qui a été obtenue par Gravity. Donc là, essentiellement, c'est l'ensemble des observations qui sont mises bout à bout. Évidemment, en pratique, il y a beaucoup de trous entre chacune des observations, mais on a quand même une idée de la courbe de lumière avec les données prises en 2017, en 2018, en 2019. On voit qu'en 2019, il y a beaucoup plus de sursauts importants. Et donc, on peut, à partir de ces cours de lumière, on peut créer une densité de probabilité du flux, donc la PDF, la probability density function du flux. Et si c'était purement aléatoire, un phénomène de type variabilité, phénomène stochastique, on s'attendrait à une loi de log normale ici. Et on voit qu'il y a bien un excès qui est significatif de flux au-delà de cette loi. Donc, il y a une composante en loi de puissance qui doit se rajouter par ici. Et donc, il y a des sursauts infrarouges, donc des phénomènes qui diffèrent des processus standards dans le flot d'accrétion. Un autre résultat très intéressant que Gravity a obtenu récemment, c'est l'observation d'un mouvement lors de trois de ces flares. Ils ont été capables de mesurer la trajectoire du sursaut, de l'éruption. Donc, avec la précision astrométrique qu'a Gravity, ils ont été capables de mesurer, de résoudre en temps le sursaut et donc de mesurer sa position à différents instants et de voir qu'il fait une rotation dans le sens aiguille d'une montre ici, avec une période caractéristique de l'ordre de 30 à 60 minutes. Et le rayon que ça représente ici, donc ça doit faire en diamètre, ça doit faire 150 microarcs/secondes. Donc ça correspond à 6 à 10 rayons gravitationnels. Ce qui, alors là, on voit ici le rayon angulaire, on voit ici la période, et donc les traits qui sont marqués ici, ça correspond aux différentes solutions. Donc en rouge, c'est les solutions pour la dernière orbite stable si on a un trou noir de Schwarzschild. Et donc on voit que les mesures ici sont bien compatibles avec les dernières orbites stables pour un trou noir de Schwarzschild. Et puis pour un trou noir de Kerr ici en rotation prograde, donc on a encore beaucoup de marge, et l'arrêt en trou noir de Kerr en rotation rétrograde ici, donc qui est encore marginalement compatible. Donc ce sursaut ici, donc sa vitesse de rotation, c'est de l'ordre de 30% de la vitesse de la lumière. Donc il y a évidemment beaucoup d'effets relativistes qui sont en jeu, et donc tout un travail, c'est de modéliser un petit peu ces sursauts et de tenir compte des différents effets relativistes, des effets gravitationnels qui vont se manifester sur la courbe de lumière et sur le signal observé. Alors un point qui fait toujours débat, c'est les modèles radiatifs de ces éruptions. Donc ces éruptions se manifestent essentiellement en infrarouge proche et en rayon X. Donc pour essayer de comprendre les phénomènes en jeu, il faut pouvoir mettre en place des campagnes d'observation multilongueur d'onde, donc qui mettent à minima en jeu télescope X, télescope infrarouge ou optique infrarouge proche, et puis éventuellement des observatoires dans le millimétrique ou Donc là, on voit un exemple d'une campagne récente ici, où on voit en rouge le sursaut observé par Spitzer, donc un satellite infrarouge, en vert et en jaune, les observations Gravity, et puis en bleu, les observations du satellite Chandra. Donc on voit le sursaut X qui est plus court, qui démarre un petit peu plus tard. Et donc ça, c'est une caractéristique assez commune de la plupart de ces sursauts. Et donc aujourd'hui, il est assez clair que le rayonnement infrarouge, il est produit par du rayonnement synchrotron d'électrons non thermiques, avec des facteurs de Lorentz de l'ordre de quelques centaines, je pense. Donc ça, on en est sûr parce que le signal est polarisé, donc c'est une assez bonne indication qu'on a affaire à un phénomène de type synchrotron. Pour les rayons X, l'origine est encore incertaine. Il y a essentiellement deux modèles principaux qui s'opposent, soit une distribution purement synchrotron sur tout le spectre jusqu'au rayon X, soit un phénomène synchrotron self-quantum où l'infrarouge est produit par le synchrotron, et puis le rayonnement synchrotron lui-même va servir de cible aux électrons qui vont pouvoir ensuite transférer leur énergie aux photons infrarouges qu'ils ont déjà produits pour les emmener jusqu'aux énergies des rayons X. Donc la principale difficulté de ces modèles, c'est que en gros, il y a deux processus en compétition quand on a un électron dans un électron énergétique, un électron relativiste. On va d'un côté l'effet synchrotron dans lequel ils vont perdre de l'énergie, et puis ou d'autre part l'effet inverse Compton. Et donc il faut que la densité de rayonnement sous forme de photons synchrotron soit supérieure à la densité d'énergie magnétique. Et ça implique que l'émission soit restreinte à des rayons très petits. Et en général, ça pose des vrais problèmes, puisque les rayons qu'il faut mettre en jeu sont bien plus petits que les rayons qu'on attend pour ces objets. Là, on attend des rayons de l'ordre de quelques rayons de Schwarzschild à peu près, vu les échelles de variabilité, vu ce qu'on a vu avant sur le mouvement. Mais là, ça implique des rayons bien plus petits que ça, en général. Donc c'est une difficulté pour ces modèles. Et donc là, on voit un modèle qui a été proposé récemment pour un sursaut. On voit le spectre infrarouge ici qui est dur et le spectre X qui est plutôt mou. Et donc ça suggère qu'il y a une espèce de cassure entre les deux. Donc les rayons X sont la signature d'électrons qui sont déjà refroidis puisqu'ils sont dans un domaine où les pertes vont être dominées par les pertes radiatives. Et donc on a un spectre qui est ramolli ici. Et donc c'est un exemple de modèle pour ces objets, pour ces sursauts. Donc on a vu que les sursauts sont assez réguliers depuis qu'on les observe, entre 1 et 2 par jour en rayon X. Pourtant, on s'interroge pour savoir si... Enfin, ça a été motivé par un phénomène qui a été détecté vers 2012-2013. On a détecté un nuage de matière dont le périastre était prévu en 2014. Donc c'est un objet qui a une période de 250 ans, donc une orbite très excentrique, et qui s'approchait à peu près 2000 rayons de Schwarzschild du centre, et dont on s'est attendu à ce qu'il subisse des effets de marée et qu'une partie de sa masse puisse être accrétée par le trou noir. Donc ça a stimulé beaucoup d'observations, et donc on n'a pas vu de grands sursauts. Par contre, ce qui semble apparaître, je dis semble parce que la significativité, disons, la confiance statistique qu'on peut donner dans les faits n'est pas immense, mais il semblerait que les sursauts les plus brillants soient devenus plus fréquents à partir de 2014, donc du passage au périastre de ce nuage, avec une fréquence qui semble être quand même multipliée par 3 pour ce type de sursauts. Donc on parle de sursauts qui sont au-dessus de 10^35 arcs par seconde à peu près. C'est peut-être une signature du passage de ce nuage au périastre. Ça peut être peut-être aussi une signature du passage au périastre de cette étoile S2 aussi, qui peut aussi influencer le flot d'accrétion. Pour conclure sur cette partie, la luminosité actuelle de Sagittarius A-star est de 5^10^35 ergs par seconde. On observe des sursauts quotidiens, mais plutôt faibles. Ces éruptions, elles sont produites à proximité du trou noir et le taux d'éruption semble indiquer des variations au cours du temps. Donc on peut légitimement se poser la question de savoir s'il y a eu des périodes où l'émission était plus intense, l'émission du trou noir était plus intense. Et donc ça, on va pouvoir le faire en regardant à différentes échelles. Donc pour trouver une trace d'une activité passée, on est obligé de reculer, on est obligé de regarder à plus, ce qui se passe à plus grande échelle pour voir éventuellement la signature. Et le premier phénomène auquel on peut s'intéresser, qui est apparu assez tôt une fois qu'on a eu des télescopiques à imagerie, on a observé que dans les régions internes, donc on revoit ici la carte du gaz moléculaire, on observe un signal non thermique X en provenance d'une partie des nuages moléculaires, et ce signal s'accompagne d'une forte raie à 6,4 keV, qui est la raie K-alpha du fer, c'est-à-dire la raie de fluorescence des couches les plus internes du fer. Et donc, une explication pour ce phénomène, c'est la fluorescence. Si on bombarde le fer avec un rayonnement X au-dessus de 7 keV, on va pouvoir aller expulser un électron de la couche K. Et quand un électron d'une couche supérieure va redescendre, ça va s'accompagner d'une émission d'une raie autour de 6,4 keV. C'est un des processus possibles, il y en a d'autres, le bombardement par rayonnement cosmique, et ça a été longtemps un débat de savoir si le signal qui était observé là-bas, dans les régions internes, était dû à des rayons cosmiques ou à une illumination. Mais une signature très naturelle qu'on attend dans ce cas-là, c'est des effets de variabilité très rapides. Donc l'idée, c'est les écho-lumières, donc ça se ramène un peu à ce que vous venez de voir pendant le cours. Donc si on a une source ici au centre de la galaxie qui va émettre une bouffée d'émission, donc elle va d'abord envoyer un signal direct, et puis l'émission va être émise dans d'autres directions, va pouvoir être réfléchie à l'intérieur d'un nuage et être envoyée vers la Terre. Et donc effectivement, si on tient compte du retard de chacun de ces chemins, on va s'apercevoir que l'ensemble des isodélais se trouve sur un ellipsoïde de révolution, puisque la somme des longueurs ici entre les deux foyers est constante, ce qui est la définition de l'ellipsoïde. Donc on va pouvoir avoir des régions qui sont éliminées de manière totalement apparemment sans lien de causalité et observer des variations extrêmement rapides sur des échelles très grandes. Si on laisse passer un petit peu de temps, effectivement, les nuages les plus lointains vont être illuminés à leur tour, vont renvoyer de la lumière vers l'observateur avec un délai plus marqué, et donc l'ellipsoïde apparent est beaucoup plus grand. Alors bien sûr, en pratique, la Terre est très loin, donc l'ellipsoïde se ramène à un paraboloïde, si on met un des foyers à l'infini, et on peut faire les choses directement comme ça. Donc ces idées, en fait, c'est assez ancien. Ça a été proposé pour la première fois par Paul Couder, qui était un astronome à l'observatoire, écrit un article sur les auréoles lumineuses des novae. Et donc ça date d'une observation au tout début du XXe siècle d'une auréole autour d'une nova, la nova de Persée, sur laquelle on a mesuré très vite un mouvement superluminique, ce qui posait question quant à l'origine du phénomène. Et donc il a montré en 1939 que c'est une prédiction tout à fait naturelle. Si on regarde l'équation de la parabole apparente et qu'on regarde la vitesse à laquelle elle se déplace, on s'aperçoit que c'est toujours supérieur à C, et c'est parfaitement normal, c'est un simple effet géométrique. Donc là, on peut regarder ce qu'on va prédire sur un objet, une région comme la région moléculaire centrale. Donc on imagine que les nuages sont distribués dans un anneau, comme ça. Donc vu de face, ça ressemble à ce qu'on a vu, et vu de dessus, ça ressemble à ça. Et on va regarder comment se propage ce paraboloïde des isodélais, et voir ensuite ce que ça veut dire sur l'émission. Donc c'est un petit calcul comme ça, et on voit les nuages s'allumer les uns après les autres et se propager, alors parfois de manière assez... En s'éloignant du trou noir, mais parfois en s'en rapprochant, selon qu'on est devant ou derrière dans la structure. Donc on s'attend à des variabilités très rapides, on s'attend aussi à observer un phénomène sur une durée assez longue quand même, on a le temps de l'apprécier pendant 1000 ans. Et donc on s'est demandé si on voyait ce genre de choses, et donc effectivement, donc c'est des observations qu'on a prises avec XMM, qui a observé très régulièrement la région depuis le début des années 2000. Il est mis en orbite en 2000, et donc on a des observations jusqu'à aujourd'hui. Et on peut s'en servir, effectivement, pour ce genre de choses. C'est ce qu'on a fait ici. On voit donc le centre galactique est ici, à peu près. Donc là, on a tout un complexe moléculaire, et on voit la manière dont il est illuminé donc avec cette raie du fer. Et si on laisse passer les années, on voit que le signal se déplace Ici, on voit le signal se déplacer dans cette structure, on voit qu'il se déplace de cette partie-là à cette partie-là dans celle-ci. Il change aussi sur ce bras de matière ici. Et donc, au final, on observe un mouvement qui est clairement superluminique. Là, on parle d'une échelle angulaire qui fait 60-70 années-lumière. Et donc, on a la preuve qu'il s'agit bien d'un écho de lumière. Si on regarde à grande échelle et qu'on compare deux sondages qu'on a obtenus, alors ça, c'est un sondage qui a été fait au tout début de la durée de vie d'XMM, et ça, c'est un sondage qu'on a fait après, on s'aperçoit effectivement que on voit ces grandes régions, là, le complexe de Sagittarius A, le complexe de Sagittarius B, C, etc. Et on voit qu'en 10 ans, cette région-là, elle s'est quasiment complètement éteinte, les nuages les plus importants ne sont plus là, il y en a d'autres qui se sont allumés. Là, on voit des structures qui se sont allumées. Le signal s'est déplacé un petit peu dans cette partie-là. Le signal ici, il a bougé un peu, il est atténué dans pas mal de régions. Et donc, très clairement, on voit une variation qui est corrélée sur l'ensemble des 100 parsecs centraux, des 150 parsecs centraux. Et donc, il faut une source très, très puissante pour pouvoir expliquer tout d'un coup. Et donc, on estime qu'il faut une luminosité X au-delà de 10 puissance 39 arcs par seconde pendant au moins un an ou plus pour produire un signal comme ça. Alors, on s'est demandé de savoir si ces échos ils étaient bien liés tout ça au même phénomène. Et en fait, donc, pour faire ça, on regarde certains de ces nuages et puis on essaye de faire la courbe de lumière en fonction du temps. Et on voit que certains nuages varient de manière très, très linéaire. Donc, soit ils décroissent, soit ils croissent de manière linéaire. Et donc, ils ont une échelle de temps caractéristique qui est lors d'une dizaine d'années. Soit il varie de manière beaucoup plus abrupte. Et là, on voit un nuage ici qui monte très gentiment. Et puis là, il y a une augmentation brutale du flux. Là, on en voit un autre où le flux montait très vite, puis redescendu. Et donc, il y a deux... En fait, si on regarde ça sur l'ensemble de la zone moléculaire centrale, on voit deux échelles de temps caractéristiques. Donc, il y a deux événements distincts, dont une échelle de temps caractéristique de l'ordre de l'année et l'autre de la dizaine d'années. Alors, est-ce qu'on peut... On a forcément une source illuminante qui est dans la luminosité de l'ordre de 10 puissance 39 arcs par seconde il y a 100 ans. Est-ce qu'on peut l'associer au trou noir? Alors, on essaye d'exclure le reste. Et donc, si on prend une binaire X telle qu'on les connaît dans les galaxies, qu'on la met dans la région interne, on s'aperçoit que... Donc, on a pris des courbes de lumière typiques des binaires X les plus brillantes de la galaxie. Et on a essayé d'évaluer ce que ça devait faire comme flux dans les nuages, et on s'aperçoit que ça dépasse jamais... on est toujours un ordre de grandeur en dessous. On s'est aussi intéressé à l'hypothèse d'un sursaut géant de magnétars. Alors, il y a des magnétars dans la région, dans les centres galactiques. Donc, les magnétars, c'est des pulsars dont le rayonnement ne vient pas de la perte d'énergie rotationnelle, mais vient de l'énergie magnétique, la perte d'énergie magnétique. Donc, ils sont extrêmement magnétisés. Et parfois, le champ magnétique se reconfigure de manière extrêmement brutale, ce qui s'accompagne d'émissions très intenses. Et on observe, une fois tous les 10-20 ans, des sursauts extrêmement intenses comme ça. Et un des plus remarquables qu'on ait vu, c'est celui de ce qu'on appelle un soft gamma repeater, mais qui est lié au même phénomène, qui a eu lieu le 27 décembre 2004, pendant lequel on a, en moins d'une seconde, 10 puissance 46 ergs ont été émis, ce qui a saturé en fait la totalité des instruments haute énergie qui étaient en orbite à ce moment-là. Et on a réussi à déduire sa luminosité, notamment grâce à la réflexion sur la Lune du signal, en mesurant le signal réfléchi par la Lune. Mais un sursaut comme ça, en fait, c'est très intense, mais c'est très court. Et donc, la quantité d'énergie totale qui est émise n'est pas suffisante pour expliquer le signal. Alors, on a parlé du ULX juste avant. Les ULX, ça pourrait être un candidat, parce qu'effectivement, la luminosité de ces objets peut monter à des valeurs très élevées. Mais la question, c'est que le problème, disons, c'est qu'on n'a pas de signature d'un ULX qui était actif il y a ne serait-ce que 100 ans. En général, il s'accompagne d'outflow et de choses comme ça, ce qui laisse des traces dans le milieu ambiant, et on n'en a pas forcément d'indice très clair. Donc, pour l'instant, Sagittarius Astar est notre meilleur candidat. Est-ce qu'on peut dater les éruptions? Alors, pour ce faire... on a besoin de connaître la position du nuage, et ça, c'est pas une information dont on dispose a priori. Donc, on essaie de l'extraire directement du signal en, en constatant que le signal, en fait, donc là on voit un spectre réfléchi, donc il est modulé par l'absorption du nuage lui-même et par le signal réfléchi. Et on voit l'ensemble des raies de fluorescence, donc on a le fer ici qui est le plus visible, et puis on a l'ensemble des autres noyaux abondants qui sont présents. Et la forme du spectre va dépendre de savoir si le nuage est plutôt éclairé de face, il va donner un spectre qui aura cette forme, ou plutôt éclairé par l'arrière, où là on aura une absorption très marquée, on aura un spectre qui aura plutôt cette forme. En fait, on peut utiliser la forme du spectre pour essayer de contraindre la position. Et on voit ici une tentative de reconstruction, en fait, où on regarde les spectres des nuages principaux, et en fait on s'aperçoit qu'on arrive à les expliquer avec deux illuminations distinctes, comme ce que suggéraient par les courbes de lumière, et on arrive à les dater avec un qui dont l'âge caractéristique est de l'ordre de 100 ans et l'autre de 240 ans. Et les deux ont une luminosité comparable, à peu près. Donc si on devait faire une espèce de courbe de lumière de la luminosité de Sagittarius à étoile, donc on voit qu'aujourd'hui, on a un état quiescent à 10^33, des éruptions qui montent jusqu'à 10^35, et les échoïques suggèrent un état, ou en tout cas un état transitoire, il y a une centaine d'années, à plutôt 10^39. Alors, on a d'autres indications d'activité plus ancienne et d'activité plus intense. Grâce à tous ces sondages comme ça, on a pu aussi voir ici ces cheminées en rayon X, donc c'est des espèces de structures bipolaires autour du centre ici, qui s'étendent sur presque 400 parsecs, dans lesquelles, c'est thermique, donc on mesure le placement, on mesure sa densité, on mesure sa température, on peut en déduire du coup l'énergie thermique qu'ils contiennent en connaissant le volume que ça représente, et on peut l'estimer à peu près 4 10 puissance 50 de Hertz, donc ça correspond à une énergie quand même assez importante par rapport à la puissance disponible ici. Et dans le même temps, en fait, le MERCAT, qui est un précurseur de l'observatoire SKA, a montré une image ici où on voit une espèce de bulle radio qui semble entourer complètement la source X et qui pourrait être liée au choc produit par l'expansion du gaz chaud ici qui est produit par le trou noir. Alors, on s'aperçoit que le plasma ici, il est hors équilibre et on arrive à dater estimer son âge à autour d'une centaine de milliers d'années. Donc, il se peut que ce soit une structure transitoire dont l'origine est quelques centaines de milliers d'années. Alors, évidemment, elle est assez excentrée. Donc on voit le trou noir ici, la bulle radio par exemple est quand même assez significativement excentrée, donc le trou noir est un candidat possible, les supernovas aussi au centre vont injecter beaucoup d'énergie, et si le milieu est, s'il y a un champ magnétique important, etc., il va pouvoir aussi focaliser, contraindre l'expansion des chocs à aller dans une structure de ce type. Donc le débat n'est pas tranché sur ces cheminées. Si on va plus loin dans le temps, donc cette fois-ci on recule vraiment, on regarde toute la galaxie, on revoit une image vue par Fermi, donc le signal Fermi, on parle de rayon gamma autour du GeV, du gigaélectronvolt. Le gros du signal qu'on observe là, c'est dû au rayon cosmique qui baigne toute la galaxie, qui interagisse avec la matière interstellaire. Ça crée une très forte émission le long du plan de la galaxie. Et quand on soustrait cette émission, en fait, on se retrouve avec deux structures résiduelles qui s'étendent de part et d'autre du centre galactique. Et donc, à la distance du centre galactique, ça représente une hauteur de l'ordre de 20 kiloparsecs. Et la luminosité de ces structures, si on les place autour du centre galactique, elle est 10^37 Hertz par seconde, ce qui est quand même pas négligeable en rayon gamma. Et l'énergie qu'il faut pour les former, ces structures, elle est pour le coup très grande, à 10 puissance 55 Hertz. Et donc le débat, c'est tout de suite, dès qu'elles ont été découvertes en 2010, le débat est arrivé de savoir à quoi elles étaient dues. Donc essentiellement, on a deux processus. Soit le trou noir était extrêmement actif il y a quelques millions d'années, avec une luminosité autour de 10 puissance 43 Hertz par seconde, donc vraiment un état proche d'un état type noyau actif de galaxie, ou alors une flambée d'étoiles très intense au centre de la galaxie, mais là aussi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, dans les deux cas, ça ne ressemble pas à ce qu'on observe aujourd'hui. Et ces deux solutions pourraient expliquer ce genre de choses. Alors, ça s'est renforcé encore récemment avec l'observation d'Hirosita. Hirosita, c'est un satellite X qui succède à un satellite qui avait été lancé dans les années 90 qui s'appelait Rosat, dont l'objectif était de scanner la totalité du ciel. La plupart des instruments X sont des instruments à petit champ de vue, donc ils pointent et ils ont une couverture très inhomogène. Mais pour beaucoup de questions scientifiques, c'est important d'avoir une couverture très uniforme du ciel. Et donc on a créé, enfin ce satellite, il a été fait. Donc c'est un instrument à bord du satellite SRG qui a été lancé il y a deux ans, et qui est au point de L2, au point de Lagrange, et qui donc consiste en plusieurs miroirs X qui couvrent un champ de vue beaucoup plus large qu'un télescope traditionnel, et qui peut du coup scanner la totalité du ciel. Et ce qui nous a un de ses premiers résultats, ça a été la découverte que il y a également des espèces de bulles bipolaires autour du centre galactique en rayon X, encore plus grandes, c'est-à-dire avec une taille qui est de l'ordre de 30 kiloparsecs. Et là encore, avec une luminosité de 10-39 Hz par seconde en émission thermique. Et donc, quand on calcule l'énergie thermique contenue à l'intérieur de ces bulles, on atteint 10 puissance 56 Hz, donc c'est vraiment très très élevé. Et donc, très probablement, ces structures, elles sont reliées. Et donc, c'est un schéma qu'ont fait les auteurs de l'article près de l'étal, dans lequel on voit la bulle de Fermi qui est à l'intérieur de la bulle X. Et donc, on peut imaginer différents scénarios, que là, on a un onde de choc, que là, on a le milieu du halo qui est choqué. Et là, on a une discontinuité de contact entre la partie qui a été émise par donc un peu à l'instar de ce qu'on observe dans un réseau supernova, par exemple. Mais en termes énergétiques, il faut donc effectivement une source de l'ordre de 10 puissance 43 Hz par seconde qui est active pendant un bon million d'années pour expliquer le signal qu'on a, enfin, la forme de ces structures. Et donc on peut tout à fait supposer que le Sagittarius A star a connu une phase de noyau actif de galaxie il y a quelques millions d'années, ou également une phase de flambée d'étoiles, mais qui commence à être peut-être de plus en plus difficile à justifier par rapport à l'énergétique nécessaire, alors que la puissance disponible avec une galaxie de Seyfert ou un noyau actif très brillant est plus importante. Une dernière indication de ce genre de phénomène, alors ça vient d'une observable très différente. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que on voit la galaxie en optique. Alors, elle a été retournée, donc le sud galactique est au nord. Et ce qu'on voit ici, c'est le courant de Magellan. Donc, on voit le LMC, on voit le SMC. Donc, c'est de la matière atomique qui suit les trajectoires des galaxies satellites de la Voie lactée. Et ce qu'ont observé Bland Hawthorne et ses collaborateurs, c'est qu'il y a un niveau de d'ionisation assez élevé. On observe un niveau dans les rayages alpha, dans certaines rayes du carbone qui est beaucoup plus important que ce qui semble attendu vu le rayonnement UV que produit la galaxie. Et donc, il faut supposer une illumination plus importante par le passé. Et ce qu'ils constatent aussi, c'est qu'il y a une partie seulement du courant magellanique qui semble concernée. Et donc, on voit que la partie là, qui s'appelle le leading arm a l'air complètement... voit beaucoup moins de d'ionisation inhabituelle. Et ça, les auteurs l'expliquent en disant qu'effectivement, si on a un noyau actif de galaxie, on a une émission UV très importante vers l'extérieur, mais qui est écrantée par la galaxie. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, une partie du courant magellanique soit protégée. Et donc, là encore, ces observables sont compatibles avec un scénario où Sagittarius A étoile aurait été à un niveau beaucoup plus élevé il y a quelques millions d'années. Et donc là, on pourrait avoir du coup ce genre d'indication qu'autour du million d'années, le niveau de la source aurait pu atteindre 10 puissance 43 Hz par seconde. Alors, la question des cheminées reste ouverte. Ça pourrait être lié à un état du trou noir il y a une centaine de milliers d'années, mais c'est peut-être beaucoup moins clair. Donc, pour conclure, Sagittarius A star est un trou noir dormant de 4 millions de masses solaires. Sa luminosité bolométrique est de l'ordre de 5 × 10^35 Hz par seconde. Donc, c'est un noyau actif, un noyau très inactif. Et donc, l'accrétion doit prendre la forme d'accrétion chaud avec, qui s'accompagne d'outflow. Outre l'émission stationnaire, quiescente du trou noir, on observe des éruptions quotidiennes avec des luminosités de l'ordre de 10^34 à 10^35 Hz par seconde, dont les mécanismes sont encore très incertains. Mais Gravity a détecté le mouvement orbital autour du trou noir massif lors d'une éruption. Donc il s'agit clairement d'un point chaud ou d'une série de points chauds qui gravitent autour du trou noir. On a des traces d'activités plus intenses par le passé. Un exemple de phénomène comme ça, donc, c'est les échos de lumière en rayon X, qui montrent qu'une source très intense de rayon X a été active il y a une centaine d'années, entre 100 et 200 ans, et que très probablement Sagittarius A star est un bon candidat pour cette source-là. Et les éjections bipolaires tracées par les bulles de Fermi, entre autres, et celles d'Hirosita, suggèrent qu'il y a quelques millions d'années, il y a une phase de noyau actif pour Sagittarius A star. Merci.